BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour, soyez les bienvenus dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons à Mâcon, en Saône-et-Loire, chez OMI, une marque agroalimentaire qui veut avancer sur le régénératif, la transparence dans le partage de la valeur et les packaging éco-conçus. Notre reporter Philippe Inodbo est sur place et notre experte sera en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons partage dans la deuxième partie de l'émission. L'économie du partage peut-elle vraiment massivement décarboner nos modes de consommation et préserver nos ressources? On posera la question à deux dirigeants qui y croient et qui veulent nous faire basculer dans la sobriété. Lucie Bache de la marque Poppins, enfin qui vient de lancer en tout cas sa nouvelle application Poppins, et Yann Lemoine des Biens en Commun. Et on terminera l'émission avec le journal du climat d'Antoine Poincaré, son regard tranché sur l'actu climatique. Allez, BFM Climat, on y va. Et on part donc, je vous le disais, aujourd'hui à Mâcon, en Saône-et-Loire, chez OMI, une marque agroalimentaire qui s'est fixé des objectifs climatiques ambitieux pour son modèle d'affaires, régénérer les sols, développer la transparence sur les revenus et accélérer sur les packaging éco-conçus. Philippe Indolbo est sur place avec les équipes d'OMI.
Avec le dérèglement climatique, les terres agricoles s'appauvrissent et les récoltes deviennent plus incertaines. La marque OMI veut donc aller plus loin que le simple bio. Elle mise sur la régénération des sols. Mais comment aider concrètement les producteurs à remettre la terre en bonne santé et surtout à faire face à tous ces bouleversements? C'est la question qui est posée par ce défi.
Aujourd'hui en France, 2/3 des sols sont dégradés du fait de pratiques agricoles intensives depuis quelques décennies. Et du coup, c'est un vrai défi puisque ça remet en question notre capacité à produire demain. C'est des sols dégradés qui sont plus fragiles face aux aléas climatiques qui malheureusement sont de plus en plus nombreux. Donc c'est pour ça que chez OMI, on a décidé d'accompagner nos producteurs bio sur des sujets de régénération des sols. Donc très concrètement, cet hiver, on a financé des analyses de sols puisque le premier sujet, c'est de connaître où ils en sont dans la santé des sols. On a mis en place des plans d'action et on a financé des formations, par exemple sur les couverts végétaux qui sont une façon naturelle de protéger les sols et on aimerait accompagner 50 producteurs encore cette année. Ça reste un défi évidemment puisque donc nous chez OMI on réinvestit 1% de notre chiffre d'affaires sur ces sujets d'accompagnement des producteurs, mais évidemment on ne peut pas à notre échelle gérer tous les agriculteurs et donc le défi c'est comment on fait en sorte faire en sorte que les agriculteurs prennent soin de leur sol et comment on les accompagne pour qu'ils ne soient pas seuls face à ces défis.
Bonjour, Joséphine Bourdonville.
Bonjour.
Merci de nous avoir accueillis sur le terrain à Mâcon sous une pluie battante.
Oui, avec plaisir.
Et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui en plateau à Paris. Là, on est au chaud, pas trempé. Merci d'être là. On va vous aider à avancer sur ces défis, notamment sur cette question de la régénération des sols. Et c'est Clémence Voreux du Shift Project à vos côtés qui va s'en charger aujourd'hui. Bonjour Clémence.
Bonjour.
On va rentrer dans le vif du sujet. On vient d'entendre Joséphine. OMI, évidemment, on ne peut pas tout faire toute seule sur un chantier aussi massif que celui de la régénération. Comment est-ce qu'on peut aider les agriculteurs à réparer, entre guillemets, régénérer, restaurer leur sol et les aider notamment financièrement?
Et bien effectivement, déjà, c'est une bonne chose de voir qu'on prend conscience que le sol, c'est le capital premier de toute l'industrie agroalimentaire. Donc c'est vraiment essentiel qu'il soit en bonne santé et qu'il soit préservé. C'est aussi ce qui permet de stocker du carbone. Donc ça, c'est vraiment important à l'heure de la décarbonation. Mmh. Et aujourd'hui, ils ont plutôt tendance à déstocker du carbone. Donc il y a plusieurs leviers pour arriver à régénérer les sols. Il y a effectivement les couverts végétaux, ce qui a été évoqué. On a aussi le non-travail du sol, ou en tout cas moins travailler le sol, moins labourer. Il y a aussi le recours à des fertilisations organiques plutôt qu'à la fertilisation à base d'engrais de synthèse. Le développement de l'agroforesterie, donc mettre plus d'arbres, plus de haies dans les champs. Mais aussi préserver les prairies permanentes, donc notamment pour l'élevage en particulier, qui est ce qui stocke le plus de carbone. Donc tout ça, effectivement, ça nécessite des compétences, une expertise particulière de la part des agriculteurs. Donc il faut effectivement les former, les accompagner. Donc ça, c'est très bien. Mais ça soulève aussi la question globalement de l'évolution du système pour que ces pratiques deviennent rentables pour les agriculteurs. Puisque pour eux, aujourd'hui, c'est eux qui supportent les risques et les coûts de toutes ces transformations et ces évolutions de pratiques.
Ouais. Et alors justement, Joséphine, quel retour vous avez de vos partenaires, de vos agriculteurs? Comme vous le disiez, ça implique de revoir complètement leur process à eux. Est-ce que vous sentez des réticences à les convaincre?
Non, à vrai dire, ils sont plutôt à l'écoute, puisque, comme tu le disais, en fait, c'est une baisse de leur capital, qui est le sol, ouais. qui est vraiment leur actif. Quand on est agriculteur, le sol, bah, c'est ce qui va nous permettre de vivre dans son travail. Donc, en vérité, protéger les sols et trouver des façons de le faire, ils sont très à l'écoute de ça, sachant que nous, on travaille avec des agriculteurs qui sont déjà en bio, donc qui sont déjà dans une démarche de réduction de leur impact. Donc, aller sur des sujets de réduction du travail du sol, de réintroduction de couverts végétaux, de réintroduction d'arbres, effectivement, dans les champs, c'est des choses sur lesquelles ils ont envie d'être accompagnés. Le sujet, c'est vraiment, justement, comment financièrement ça peut être accompagné.
Et vous, d'ailleurs, enfin, d'un mot là-dessus, vous disiez, vous investissez 1% de votre chiffre d'affaires oui. auprès d'eux, vous pourriez faire plus ?
Bah, on peut difficilement faire plus, c'est déjà beaucoup à notre ouais. échelle de marque. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est que l'ensemble de la chaîne de valeur ouais, s'intéresse à ce sujet. Donc, que ce soit aussi aller jusqu'à la distribution. Et c'est aussi un sujet de politique publique.
Alors, justement, vous parlez de la distribution. Ça nous renvoie vers le deuxième défi. On retourne sur place avec Philippine pour aborder un autre sujet très important pour vous, qui est de développer la transparence sur toute la chaîne de valeur.
Deuxième défi, OMI veut que les consommateurs sachent tout, l'impact climat, la répartition des revenus entre producteurs et distributeurs, jusqu'aux marges de chacun. Mais certaines enseignes freinent sur ce sujet. Résultat, la marque peine à se faire une place dans les rayons. La transparence est-elle donc une promesse encore difficile à tenir ? On voit ça tout de suite.
Être transparent, ça veut dire pouvoir maîtriser ses filières, maîtriser toute sa chaîne de valeur et du coup être en lien avec tous les acteurs qui composent la chaîne de valeur pour la fabrication d'un produit. Depuis 2021, on est la seule marque à afficher la répartition totale du prix de tous nos produits. On va aussi afficher la provenance exacte de tous nos ingrédients dans nos produits et également le Planet Score, qui est du coup l'impact environnemental de chaque produit. Ça implique du coup de maîtriser les filières et du coup d'écarter aussi les ingrédients qui sont mal tracés. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut aussi assumer quand on est imparfait, parce que même quand on a des ingrédients qui proviennent d'ailleurs, eh ben, on se doit de le dire également. Et la troisième chose, c'est que le prix, les marges, c'est encore un sujet qui est tabou. Mais en magasin, ça va faire vraiment la différence parce que le consommateur va comprendre la valeur d'un produit.
Alors Clémence, sujet ancestral, hein, s'il en est dans la et polémique, s'il en est dans l'agroalimentaire, comment imposer, je ne sais pas si c'est le mot, la transparence dans la grande distribution ?
Effectivement, donc peut-être déjà pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin de transparence ? Aujourd'hui, il y a effectivement de l'opacité à la fois sur la construction des prix et des marges des produits dans l'agroalimentaire, avec parfois des surmarges qui peuvent être faites sur des produits durables, sur la bio par exemple, mais aussi des provenances de produits dont on n'est pas effectivement sûr, qui sont écrits fabriqués en France, mais dont les ingrédients ne sont pas forcément français. Et donc aujourd'hui, il y a aussi seulement 7% de la valeur des produits qui revient effectivement aux agriculteurs. Donc tout ça, ça crée beaucoup de défiance chez les consommateurs qui finalement ont du mal à orienter leurs achats. Ils ne savent pas forcément comment s'y retrouver, notamment avec la jungle des labels qui prolifèrent de plus en plus de qualités très variables. Donc tout ça, ça rend les choses compliquées. Donc il y a un besoin globalement de regagner la confiance des consommateurs. Donc ce que fait OMI va évidemment dans le bon sens. Après, il y a la question de comment on change le système dans son ensemble pour généraliser cette transparence. Et donc ça implique effectivement de reprendre un peu le système à la base, de réfléchir, parce que quand on est dans les circuits de distribution classiques, on ne peut pas avoir toutes ces informations-là sur l'étiquette. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ce ne soit pas seulement les consommateurs les plus engagés qui utilisent ces informations pour faire des choix responsables, mais que tout le monde puisse le faire. Et donc ça implique d'embarquer globalement tous les industriels et les distributeurs dans la démarche, à la fois pour systématiser la contribution de l'aval à l'évolution des pratiques des agriculteurs, ce qui est proposé par OMI notamment, mais aussi de limiter les surmarges qui peuvent être faites sur les produits durables, tout en travaillant à s'assurer que l'offre reste là, pour qu'elle soit bien, les produits restent bien en rayon et bien valorisés. Et donc ça implique d'embarquer ces acteurs-là de manière volontaire autant que possible, mais aussi réglementaire si à la fin ça ne fonctionne pas.
Et Joséphine, donc vous avez cette démarche avec OMI de transparence à la fois pour des raisons climatiques et sociales. Est-ce que la transparence fait vendre ? Est-ce que vous vendez plus parce que vous êtes plus transparent ?
Oui, je pense qu'il y a vraiment une volonté des consommateurs d'avoir l'information. Donc en fait, ça crée de la confiance et la confiance, effectivement, elle est...
C'est bon pour le business.
C'est bon pour le business. Et nous, c'est des commentaires qu'on a régulièrement, des consommateurs qui achètent les produits, ce qu'ils aiment avant tout, donc c'est les produits parce qu'ils sont bons, et c'est aussi parce qu'ils sont transparents. Donc oui, c'est un vrai argument.
Bon, on retourne une dernière fois sur le terrain, parce que vous avez un dernier défi à relever, qui est d'innover, un sujet qui revient très souvent quand on parle d'agroalimentaire, d'innover dans les packagings pour économiser les ressources.
emballages biosourcés, réduction du plastique ou encore éco-conception, OMI vise des packagings plus responsables. Mais entre les contraintes techniques, les normes de conservation et les habitudes des consommateurs, l'équation est loin d'être simple. La question que pose ce défi est donc la suivante. Peut-on vraiment concilier écologie et praticité dans nos placards? On regarde ça.
Aujourd'hui, chez OMI, on a déjà 100% d'emballages qui sont recyclables. 75% à base de verre et ensuite il y a un mix entre papier et plastique recyclable. On aimerait aller plus loin et avoir complètement se passer du plastique. Donc pourquoi pas étudier des emballages éco-sourcés, biocompostables. Seulement c'est un vrai défi parce que les fabricants ne sont pas toujours équipés pour savoir justement processer ce genre d'emballages compostables qui sont plus fragiles. Donc il faut des équipements spéciaux, notamment au niveau des ensacheuses. Le deuxième défi, c'est en termes de conservation. Parce qu'un emballage compostable, il va être moins protecteur, surtout sur quand on est sur du biscuit qui peut être assez gras en fait. Un emballage biosourcé, ça va diminuer par deux la durée de vie du produit. Donc c'est pour ça que par exemple sur ce genre de produit, aujourd'hui on a mis c'est plus de 60% de papier, mais il y a aussi une fine couche de plastique à l'intérieur pour préserver la qualité organoleptique du produit dans le temps. On n'a pas trouvé la solution pour être 100% papier et se passer 100% de plastique parce qu'on a des produits qui contiennent du beurre, de l'huile et qui donc sont soumis à l'oxydation si on les laisse à l'air libre sans papier.
Alors, Clémence, le mot de la fin, il nous reste deux minutes. Le packaging, c'est un sujet qui revient systématiquement quand on reçoit une entreprise de l'agroalimentaire. On en a parlé il y a quelques mois avec Saint-Hubert, il y a 15 jours avec Olga, aujourd'hui avec Omi. Quels sont vos conseils sur ce défi très complexe?
Je pense que sur les emballages, on a la question des déchets plus globalement qui arrive toujours. Et là, on a toujours l'approche avec les trois R, réduire, réutiliser, recycler. Mmh. Donc sur la partie réduire, on a toujours la question du vrac qui se pose, donc qui nécessite d'avoir toutes les chaînes logistiques et l'organisation qui va avec, mais qui est évidemment très souhaitable. Il y a la question d'optimiser globalement aussi les emballages existants, avoir des plus gros paquets ou en tout cas avec plus de volume à l'intérieur pour vraiment rentabiliser l'emballage. Sur les sujets de recyclage, donc les déchets des ménages, c'est entre 20 et 30% des déchets totaux, ouais. Mais c'est aussi les plus éparpillés, donc il y a la question de la collecte derrière. À la fois, on s'améliore, notamment sur la collecte de déchets organiques, ce qui fait que les emballages compostables ont finalement aussi sans doute un intérêt vraiment à être développé. Et puis globalement, arriver à avoir aussi des matériaux qui sont plus facilement recyclables et peut-être plus facilement aussi recyclés en termes de composition initiale. Et puis après, il y a la question de la réutilisation. Donc là, on retombe sur la question de la consigne, qui à la fois est évidemment une très très bonne solution, mais qui est souvent en verre aussi, ce qui pose la question des transports, puisque transporter des matières lourdes, c'est sur de longues distances, c'est évidemment pas non plus souhaitable.
Bien sûr, c'est émetteur.
Donc il y a aussi besoin d'avoir un système logistique pour avoir des unités de traitement qui soient au plus proche de la consommation.
Ouais.
Donc il y a ce que peut faire l'entreprise toute seule, et il y a le fait de travailler avec le territoire et tous les acteurs du territoire pour mettre en place tous les circuits logistiques.
Et mot de la fin pour vous, Joséphine, justement, parce que vous le disiez, trois quarts de votre offre, c'est du verre, c'est dans des contenants en verre. Vous faites de la consigne là-dessus?
Oui, on a commencé à étudier le sujet avec des acteurs en fait qui proposent ça, donc comme le Drive tout nu. Ou ce genre ou la tournée sur Paris et nous en fait effectivement on attend que l'ensemble de l'écosystème aille vers la consigne parce que nous à notre échelle on peut pas le mettre en place, il faut comme c'était mentionné de la logistique mais on est effectivement ouvert à ça parce qu'on sait qu'il faut aller vers ces sujets.
Et ce sera le mot de la fin, on en reparlera dans BFM Climat. Merci beaucoup à toutes les deux, Joséphine Bournonville-Domi et Clémence Voureux du Shift Project. Allez, on a parlé agroalimentaire, on va parler à présent partage et location. On parle souvent reconditionner seconde main dans BFM Climat pour réduire la consommation et donc les émissions de CO2 et l'extraction de ressources. Mais il y a un nouveau modèle qui est en train de se développer pour atteindre les mêmes objectifs. C'est ce qu'on appelle l'économie du partage, c'est-à-dire le partage, ou la location d'objets entre particuliers ou auprès de commerçants. Qu'est-ce que ça changerait? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui dans BFM Climat. D'un point de vue climatique, justement, si ce type de solution passe à l'échelle. On va poser la question à deux entrepreneurs qui ont les idées très claires, vous allez le voir, sur cette économie du partage. Bonjour Lucie Bache.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui dans BFM Climat. Vous êtes la cofondatrice de la nouvelle application Poppins, bien sûr aussi de Too Good To Go et plus récemment de la Climate House. Vous étiez venu nous en parler dans BFM Climat. Et avec vous Yann Lemoine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes le président fondateur de l'entreprise Les Biens en Commun. Lucie Bache commence avec vous. Vous l'avez vu avec Too Good To Go, pour que ça marche, il faut toucher beaucoup de monde. Il faut aller voir les gens un par un, les commerçants un par un. Là, vous avez lancé Popin's il y a un mois. Quels sont vos premiers retours, vos premiers chiffres? Vous touchez combien de gens? Vous proposez combien d'objets? Combien de commerçants partenaires?
Ouais, alors effectivement, c'est le tout début. L'application Popin's, elle permet de tout partager, en fait. Et concrètement, quand on a besoin d'une perceuse, d'un lit pour bébé, de boules de pétanque, en fait, il y a forcément quelqu'un qui l'a déjà autour de nous. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir être connecté à la bonne personne au bon moment, au bon endroit pour partager et donc posséder moins, mais profiter plus, finalement. Effectivement, on a lancé il y a moins d'un mois. Ça a été assez fou, en fait, le lancement. Aujourd'hui, il y a déjà plus de 25 000 personnes qui utilisent l'application. D'accord. Et qui donc, maintenant, ils ont le réflexe, quand ils ont besoin de quelque chose, au lieu d'aller l'acheter, je vais pouvoir l'emprunter. Soit à un voisin de quartier, soit à un magasin de location, soit à une bibliothèque connectée, par exemple, autour de moi. L'idée, c'est que sur Popin's, vous allez retrouver toutes les options pour partager. Et c'est ça qui fait que ça rend les choses faciles, fiables et fun aussi, parce que c'est hyper important quand on change nos usages d'avoir de le faire dans la joie, en fait.
Oui, et pas dans la contrainte, effectivement, ça c'est un point important. Et on va voir avec vous comment ça fonctionne côté des biens en commun, mais c'est quoi votre plan? Parce que Too Good To Go, maintenant on connaît, vous avez réussi à toucher des millions de personnes. Est-ce que vous pensez qu'avec Popin's, vous pouvez atteindre la même échelle ou pas?
Ah bah tout à fait, l'ambition c'est de créer un mouvement mondial du partage. En fait, quand on partage plus...
Moi j'étais acheté français, mais déjà, non, carrément mondial.
D'accord. En fait, ça a du sens absolument partout.
Oui,
Quand on partage plus, on est complètement gagnant, et au niveau économique, parce qu'en fait on dépense moins, et au niveau de ce qu'on stocke chez soi, parce qu'on économise plus d'espace, et au niveau du CO2. Et même, j'ajouterais que ça rajoute du lien social dans nos villes. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui, au temps où les technologies prennent toute la place. Là, l'idée, c'est d'utiliser la technologie pour remettre du lien entre les gens. Donc, à partir du moment où on a un modèle qui est gagnant sur tous les niveaux, moi, mon ambition, c'est de le développer partout, quoi.
Ouais, c'est assez logique. Pour vous, Yann Lemoine, idem, donc les biens en commun... société entre guillemets un peu plus vieille, vous ça fait 4 semaines, vous ça fait 4 ans. Expliquez-nous comment ça fonctionne et idem, quels sont vos chiffres clés aujourd'hui?
Oui, alors nous on propose un service de location d'équipements du quotidien, d'ultra-proximité et en libre-service.
Okay.
L'idée c'est qu'on installe des bornes dans des commerces, des bâtiments publics, des résidences, des entreprises.
D'accord.
On y met à disposition du matériel, donc c'est nous qui sommes propriétaires, c'est nous qui faisons l'entretien, la réparation, le remplacement. Et vous avez une application qui vous permet de réserver le Karcher, la paraclette, la perceuse, le vidéoprojecteur, pour le moment de votre choix, pour la durée de votre choix. En deux mots, on essaie de faire le Vélib des équipements du quotidien.
Ouais.
L'ambition, c'est que dans une dizaine d'années, on permette à chaque personne vivant en ville, en France, on verra pour le monde dans un deuxième temps, en France, d'avoir accès à une borne connectée à moins de 10 minutes à pied.
Quand vous dites des bornes, c'est des casiers, quoi.
Oui, c'est des casiers connectés. Ouais. Il faut se dire que c'est comme des casiers Vinted, Amazon, etc.
Ouais, c'est ça.
Exactement.
Ouais, okay.
C'est vraiment le même fonctionnement, sauf qu'au lieu de permettre de la consommation effrénée, on va permettre, on espère, du partage et de la location, du partage effréné, effectivement.
Ouais.
Pour l'instant, on a dépassé les 7000 locations, on a plus de 50 installations.
Okay.
Et on se développe, là, puisque depuis le début de l'année, on a fait 25 installations sur nos 50. Donc, c'est en train de prendre de l'ampleur.
Ouais.
C'est clairement l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à déployer les casiers sur un territoire le plus largement possible pour atteindre ce chiffre un petit peu qu'on se donne, cet objectif. Chacun ait accès à moins de 10 minutes à pied à une solution de location pratique et économique.
D'accord, c'est ça votre plan, moins de 10 minutes à pied. Et alors, je le disais, vous avez un petit peu de recul maintenant. Qu'est-ce qui marche et qui ne marche pas dans l'économie du partage? Pour tous ceux qui nous regardent et qui se disent, tiens, ça aurait sens pour mon business de mettre ça en place. C'est quoi vos retours d'expérience?
Moi, j'étais convaincu quand je me suis lancé, et je suis toujours convaincu aujourd'hui, que si on veut que les gens changent de mode de vie... il faut leur proposer une alternative désirable à ce qu'ils ont. Et c'est compliqué, puisqu'aujourd'hui, la propriété, c'est ultra désirable, c'est ultra pratique, hein, notamment avec l'achat en ligne. On achète depuis son canapé, on se fait livrer chez soi. Donc l'enjeu, si on veut que les gens basculent sur le partage, c'est d'essayer d'apporter une solution qui se rapproche le plus possible des avantages de la propriété. Et donc, notamment... l'ultra-proximité, la disponibilité au moment du besoin, l'autonomie, les économies. Et aussi, je pense, on est dans une économie, malheureusement, mais un peu de la flemme, hein, c'est un thème qui se développe.
Ouais, complètement.
Que les gens ne savent pas s'attendre à ce que la majorité soit prête à faire des efforts pour ça. Dans un premier temps, nous, l'idée, c'est vraiment qu'on embarque des gens parce qu'ils ont un intérêt individuel.
Mm-hmm.
On arrive à le déployer largement sur un territoire, donc on embarque 10, 15, 20, 30% des habitants. Donc, on a un impact environnemental et social très fort. On démocratise l'accès à des équipements de qualité pour tous. Et ensuite, on vient travailler cette communauté de clients consommateurs pour en faire des consom-acteurs. Hein? Mais le premier, le driver principal doit être l'intérêt individuel, je pense, si on veut embarquer beaucoup de monde et donc avoir un impact.
Lucie, même question pour vous, parce que donc là, Popin's, c'est tout frais, mais vous avez l'expérience importante de Too Good To Go. Qu'est-ce que vous voyez comme obstacle à surmonter ou en tout cas comme défi à relever pour massifier cette économie du partage?
C'est ce que dit Yann, c'est vraiment comment est-ce qu'on change nos usages en fait. Comment est-ce que le réflexe quand j'ai besoin de quelque chose, c'est pas d'aller l'acheter ou de le faire livrer, c'est de me dire il y a forcément quelqu'un qui l'a déjà autour de moi. Et en fait cette idée de qu'on est tous en fait un grand sac commun, si on se remet au partage, bah en fait mon placard c'est plus seulement mon placard, c'est le placard potentiellement de tout le quartier autour de moi. Mmh. Et ça c'est absolument génial de se dire waouh, en fait je peux posséder moins individuellement, mais on peut tous être beaucoup plus riches collectivement. Mmh. Et nous, ce qu'on dit chez Popin, c'est comment est-ce qu'on passe de la propriété individuelle à la prospérité collective. Mmh. Et ce côté de posséder moins et profiter plus, moi, j'y crois dur comme fer. Et en fait, tous les gens à qui on en parle, ils disent « mais oui, c'est une évidence, en fait ». Et à partir du moment où c'est une évidence, bah, il faut que ça devienne la norme. Et c'est pour ça que c'est assez génial aussi quand on s'est rencontré avec Yann, parce qu'en fait, il y a plein de... Déjà, on a une vision commune de faire que le partage devienne l'évidence. Mmh. Et ensuite, on s'est dit, toutes les choses qu'on fait qui se ressemblent, comment est-ce qu'au lieu d'être des points de concurrence, ça va être des points de collaboration géniaux? Et c'est pour ça que les biens en commun, ça fait partie de l'offre qui est mise en ligne sur Popin's.
D'accord.
Donc quand vous allez sur Popin's et que vous cherchez une perceuse, vous allez pouvoir trouver et celle de votre voisin autour ouais. de vous, et celle du casier les biens en commun le plus D'accord. proche. Donc en fait, on se catalyse ouais, l'un
vous
et l'autre.
Vous agrégez,
en fait.
Vous êtes partenaire.
Exactement.
Vous agrégez la...
D'accord. Et en fait, grâce à ça, au lieu de se dire, bon ben on fait la même chose, on est concurrent, on se dit, bah non, en fait, si on veut que le partage devienne la norme, il faut qu'il y ait énormément d'acteurs du partage. Mmh. Et c'est ça qui est beau, je pense, dans cette économie vertueuse, c'est qu'on plus on fait la même chose, plus on a vocation à le faire ensemble. Mmh. Et que sur Popin's, on puisse avoir dès le début une offre aussi qualitative que celle des biens en commun, en plus de l'offre de tous les voisins qui mmh. sont en train de rajouter leur propre inventaire, en plus de l'offre des magasins de location, etc., et que on puisse les mettre en avant, et qu'inversement, les biens en commun, ils puissent participer aussi à faire que l'inventaire de Popin's soit plus ouais. intéressant, on est tous les deux gagnants ouais. aussi. Mmh. Et c'est ça que je trouve nécessaire. Donc je pense qu'en termes d'obstacles, il y a aussi comment est-ce qu'on réapprend à faire ensemble, et en tant qu'acteur du partage, et en tant que consommateur, pour se dire... avoir un grand placard en commun, c'est quand même un rêve dans lequel on a tous envie de vivre.
Et alors, j'avais une dernière question à vous poser parce qu'on a déjà quasiment fini. Je voulais quand même évidemment qu'on parle de climat. On est dans BFM Climat parce que là, on voit bien la praticité, l'aspect social, l'aspect économique. On fait aussi tout ça quand même pour réduire notre bilan carbone, en tout cas lié à la consommation. Est-ce que vous, idem avec le recul que vous commencez à avoir, vous savez dire quel est l'impact climatique de ce que vous proposez?
Alors, on a... Une analyse de cycle de vie, hein, et on a pu calculer à l'échelle d'un immeuble qu'est-ce qui se passerait si les gens louaient plutôt que d'acheter une dizaine d'équipements.
D'accord.
Et l'impact peut être énorme, on peut réduire de 80% l'impact lié à la production et à la fin de vie des équipements. Et puis tout récemment, on a aussi mis en place une petite méthode pour essayer de calculer combien 7000 locations, puisqu'on a dépassé les 7000 locations, ouais. génèrent comme réduction. Alors pour l'instant, c'est aux alentours d'une centaine de tonnes de CO2 évitées, okay. mais il faut surtout voir le potentiel. J'ai fait un petit calcul, si demain chaque Parisien, chaque Parisienne, au lieu d'acheter un équipement qu'il ou elle utilise qu'une seule fois par an, le ouais. louer, ouais. on éviterait 55 000, l'équivalent de 55 000 aller-retour Paris-New York en avion. Donc, et en termes de déchets, ça pourrait énorme. Permettre d'éviter de jeter l'équivalent de 31 statues de la liberté. Mmh. Et ça, c'est juste si chaque Parisien ou Parisienne oui. font une location par an. Donc le potentiel est massif, D'accord. mais il faut rentrer ouais. dans le radar et il faut que ce soit désirable.
Ouais.
C'est ça. En fait, aujourd'hui, on possède tous 2,5 tonnes d'équipement chez nous. C'est juste une folie, c'est le poids d'un hippopotame.
D'accord.
Il y a 30% de tout ça qui n'est jamais utilisé.
Ouais.
Donc c'est comment est-ce que en fait on prend le temps de changer la façon dont on regarde tout ce qu'il y a chez nous et dont on passe plutôt à le profiter, à échanger avec les gens autour de nous. Et qu'on économise tous collectivement énormément de CO2. Ouais. Effectivement, les chiffres, quand on les regarde, ils sont absolument phénoménaux. Donc, hâte que le partage devienne la norme.
Ouais, absolument, pour plein de bonnes raisons. Merci infiniment
merci à
tous
vous.
Les deux pour vos conseils, vos partages d'expérience. Lucie Bache, bonne chance à Popin's.
Merci.
Et Yann Lemoine, des biens en commun. Bonne route aux biens en commun. Allez, on reçoit Antoine Poincaré désormais pour son journal du climat. Bonjour Antoine.
Bonjour Thomas.
Directeur de l'AXA Climate School. On commence aujourd'hui, Antoine, avec le nouveau plan d'investissement de RTE pour le réseau électrique français qui prévoit notamment l'adaptation au changement climatique. Et le seul volet adaptation coûterait, Antoine, 20 milliards d'euros.
Et oui, RTE a prévu d'investir dans les 15 ans à venir 100 milliards d'euros, dont 20 milliards pour l'adaptation au changement climatique. C'est donc beaucoup d'argent. L'entreprise souligne les deux périls principaux, la chaleur et les inondations. Alors les vagues de chaleur, le problème c'est que ça dilate les câbles qui ont donc tendance à baisser, éventuellement toucher les arbres ou les sols, vous favorisez des départs de feu. La réponse est donc assez simple, il faut renforcer les pylônes, les rendre plus hauts et puis épaissir les câbles pour les rendre plus résistants. C'est assez standard sur tout le pays. Les inondations, c'est un peu plus subtil. 25% des centrales électriques du pays seront en zone inondable d'ici 2050. Et là, la réponse n'est pas toujours la même. Parfois, on va étanchéifier, parfois, on va en déplacer certains, les rehausser. Ça sera du cas par cas. Alors, RTE a déjà fait face à des murs d'investissement pour l'adaptation au changement climatique. Après 99, il y a eu un grand plan tempête pour adapter le réseau au fort vent. Mais à l'époque, ça n'avait coûté que 3 milliards d'euros sur 15 ans, c'est donc 7 fois plus cette fois-ci.
Bon, à suivre parce que là, c'est absolument fondamental. Direction l'Angleterre à présent, où le gouvernement a décidé de financer un programme de recherche sur un sujet très controversé, la géo-ingénierie solaire. Une fois qu'on a réussi à le dire, de quoi parle-t-on ?
Oui, alors le mot est un peu technique, Thomas, mais il faut s'y habituer parce que ça va être un gros sujet dans les années à venir. L'idée de la géo-ingénierie solaire, c'est de se protéger des rayons du soleil pour limiter les effets du réchauffement climatique. Ça se passe à l'état naturel, par exemple, quand il y a une grosse éruption volcanique, mais là, on parle de le faire avec une activité humaine et on parle surtout de le faire à très très grande échelle. Évidemment, la technique est risquée, on ne maîtrise pas bien la manière dont l'atmosphère va réagir, mais de l'autre côté, le réchauffement climatique, c'est aussi des risques absolument majeurs et existentiels, et donc certains États commencent à dire qu'il vaut mieux savoir où on va et regarder un peu comment tout ça pourrait marcher. La nouveauté du programme anglais, c'est qu'on ne fait pas ça uniquement sur des ordinateurs, mais en conditions réelles. On va par exemple relâcher un peu de soufre dans l'atmosphère pour regarder comment réagit l'atmosphère et le climat et en tirer les premières conséquences. La communauté scientifique se déchire, elle est profondément divisée sur ce sujet-là. Évidemment, il y a des risques climatiques, il y a des risques géopolitiques aussi. Affaire à suivre donc sur BFM Climat quand on aura les premiers résultats des tests.
Ouais, sujet absolument passionnant. On termine, Antoine, votre journal avec cette alerte en Asie. On manque cruellement de neige en Himalaya.
Oui, ça fait 23 ans qu'on mesure très précisément la hauteur de la couche de neige sur l'Himalaya. Eh bien, elle n'a jamais été aussi basse. La faute à une saison des neiges qui a démarré plus tard que d'habitude, vers janvier. D'habitude, c'est plutôt octobre-novembre. Le problème, c'est que l'Himalaya, c'est le véritable château d'eau de la région. À l'été, les neiges fondent et alimentent les grands fleuves asiatiques. Et donc, moins de neige l'hiver, c'est un risque de sécheresse accru l'été. L'organisation qui monite tout ça souligne deux dangers principaux. Le Mékong, ce fleuve qui descend sur toute la péninsule, Thaïlande, Birmanie, Laos, Cambodge, Vietnam, mais aussi un fleuve qu'on connaît moins, le Salween, qui irrigue la Chine et la Birmanie. Au total, c'est 2 milliards de personnes dont l'accès à l'eau douce dépend des neiges de l'Himalaya. Les enjeux sont absolument majeurs.
Merci beaucoup Antoine et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aussi, comme toujours, à la Convention des entreprises pour le climat pour son aide dans la préparation de cette émission. À très vite, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, on garde contact sur notre appli BFM Business en podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.